Père Gilles François, vous êtes à Rome pour un événement important. Il y a 60 ans, Madeleine Delbrel venait à Rome pour 24 heures. Pourquoi est-ce qu'elle est venue à Rome? Dans quelles conditions?
Elle a pris le train à Paris, gare de Lyon, un matin. Elle est arrivée le lendemain matin à Rome. Donc 24 heures de train, vous voyez, en 1952, pour faire relier les deux capitales. Elle avait l'intuition qu'il fallait qu'elle prie à Saint-Pierre, au cœur de l'église. Ses compagnes, ses amis lui disaient « Mais tu peux aller prier ailleurs si tu veux prier pour l'église. » Mais elle s'est accrochée à cette idée, non, c'est à Saint-Pierre que je dois aller prier. En 1952, nous sommes donc 7 ans après l'armistice. La France commence à se reconstruire. Il y a une population ouvrière importante qui travaille beaucoup, mais qui est en situation difficile. Et puis surtout, il y a une prise de conscience de l'Église de France que cette population ouvrière est déchristianisée, a poussé en dehors de l'Église. Ils ont quitté leur village de province pour venir s'entasser dans des zones industrielles, des régions industrielles. Et là, ils ont perdu le chemin de l'Église. C'est la prise de conscience qui s'appelle la France, pays de mission. C'est une prise de conscience qui a mené les cardinaux et archevêques de France à fonder en 1941 la mission de France. Et de cette mission de France, il y a eu beaucoup de prêtres ouvriers, commencé par un dominicain bien connu, mais qui n'est pas de la mission de France, le père Jacques Leuve, qui fut prêtre docker à Marseille, lui-même converti et conscient qu'il y a des foules immenses qui sont complètement en dehors de l'Église, qui ne connaissent pas le Christ. Alors l'aventure s'est développée, beaucoup de forces jeunes, prêtres, puis après, plus tard, des religieuses vont s'engager dans cette voie, soutenue par les évêques. Mais la voie n'est pas très facile. Qu'est-ce que c'est qu'être prêtre ouvrier? C'est être comme les ouvriers, oui, mais un prêtre est formé, par exemple, il a le niveau bac plus 5, alors il va être au milieu des ouvriers. Très vite, il peut être repéré comme délégué pour représenter ses collègues auprès des patrons. Alors il peut devenir syndicaliste. Et puis, souvenons-nous, c'est un peu lointain peut-être pour nous maintenant, mais au lendemain de la guerre, en France, il y a une immense fascination pour l'efficacité des communistes qui sont censés être ceux qui luttent pour la justice sociale. Et ce marxisme-léninisme exerce un pouvoir de fascination extraordinaire sur les élites et va exercer sur les élites, enfin aussi sur donc un certain nombre de prêtres qui voient cette misère ouvrière, qui voient aussi la réalité de l'exploitation de l'homme par l'homme. Ils se disent, bah, alors je vais rejoindre les rangs communistes. Alors ça concerne une partie des prêtres ouvriers. Certains vont aller de plus en plus s'engageant comme les ouvriers, au milieu des ouvriers, avec cette ambiguïté de se mettre avec les communistes comme eux, mais en pensant comme eux. Alors la situation est très difficile parce que certains peuvent trouver que c'est ça qu'il faut faire, mais d'autres connaissent ce qui se passe de l'autre côté du rideau de fer. On connaît ce qui se passe dans les démocraties populaires. Enfin, si un certain nombre de Français sont aveuglés, à Rome, on connaît ce qui se passe de l'autre côté. Alors, l'expérience d'un côté des prêtres ouvriers et de l'autre côté, la connaissance de la situation au-delà du rideau de fer, fait que cette situation des prêtres ouvriers est de plus en plus critiquée. Il y a des critiques à l'intérieur de l'Église de France, des dénonciations très violentes. Et en fait, alors ça c'est, évidemment, c'est... Ce que je vous dis là, c'est une approche historique, mais il y a des questions de fond aussi qui se posent. L'homme, le prêtre, est-il un homme du sacré quand il va, tels les apôtres, tels Saint-Pierre, Saint-Paul, comment est-il prêtre en allant auprès des gens? Madeleine est très inquiète de tout cela.
Madeleine Delbrel est à Ivry.
Elle est à Ivry. Elle s'est convertie à l'âge de 19 ans et 10 ans plus tard, à l'âge de 29 ans, elle arrive à Ivry avec un désir, elle et ses quelques premières compagnes, d'être auprès d'une population pauvre et incroyante. En fait, elle ne savait pas qu'en allant à Ivry, elle arrivait au cœur du communisme français, puisque c'est la circonscription du premier secrétaire du Parti communiste, Maurice Thorez. C'est là où il y avait l'école des cadres du parti. Et donc, elle va être effectivement confrontée. Bon, d'abord, elle-même, elle va avoir une certaine tentation d'adhérer à l'efficacité communiste. En se disant, ceux-là, ils savent lutter pour plus de justice. Et puis, elle ne va jamais basculer vraiment. Elle a une certaine admiration pour eux, mais pour elle, c'est une convertie. Elle a donc la conscience que la foi est un don de Dieu, et que la foi est étrangère au monde. Alors, s'il faut être avec les ouvriers, avec les pauvres, avec les incroyants, on peut être comme eux en tout, très proche d'eux, mais on n'est pas semblable à eux, on reste étranger à eux parce qu'on est habité par la foi en Dieu. On est habité par le Christ. Et là, c'est incompréhensible pour un non-chrétien. Alors, elle a compris que la mission ne peut pas nous mettre simplement en similitude avec nos collègues, avec nos voisins. Il y a quelque chose qui habite en nous et qu'on doit laisser habiter en nous comme quelque chose qui n'est pas naturel. Elle le dit d'ailleurs, pour elle, la foi, c'est surnaturel. Or, elle voit que tous ces jeunes prêtres, toutes ces forces vives de l'Église qui sont devenues prêtres ouvriers, viennent d'un monde où la foi, c'est naturel. La foi, bah, tout le monde a la foi. Ce qui est normal, c'est d'avoir la foi. Et donc, on peut simplement se dire, je vais être comme mes frères et sœurs incroyants, je vais vivre près d'eux, et puis ils vont comprendre. Elle dit non. Non, il ne faut pas simplement être comme eux, il ne faut pas simplement être en similitude. Il y a en nous la conscience que nous sommes habités par le Verbe qui vient dans le monde, mais qui n'est pas du monde. C'est Saint Jean, hein, je n'invente rien, elle n'invente rien. Alors, il y a une très vive tension à ce moment-là dans cette Église de France qui a pris conscience qu'énormément de gens sont en dehors de l'Église sur la façon d'aller vers eux. Est-ce que c'est que prêtre, homme du sacré? Alors on pourrait dire, quand un prêtre met un bleu de travail, il n'est plus homme du sacré. Il y a eu des débats très violents à ce moment-là. Homme du sacré, ce n'est pas anodin, puisqu'il s'agit effectivement que le prêtre soit celui qui est l'homme de Dieu, qui est habité par Dieu, qui vient auprès des ouvriers, des dockers du port de Marseille pour leur porter le Christ. Alors est-ce qu'il est comme les dockers de Marseille? Oui, non, non, il n'est pas comme eux. Parce qu'il y a cette présence qui l'habite, je pense au père Jacques Leuve, il y a cette flamme de la conversion qui l'habitait. Et toute cette expérience apostolique était complètement neuve au seuil des années 50. Et était prise dans un contexte extrêmement tendu, qui est ce contexte que j'ai raconté un peu tout à l'heure, de la fascination pour l'idéologie marxiste, pour ce combat pour la justice, qui évidemment, 60 ans après, nous apparaît comme très partial. Quand nous chrétiens, on pense à la justice, c'est rendre à chacun ce qui lui est dû. Et c'est pas seulement donc un bien matériel qu'on lui rend. Et quand nous chrétiens, on parle de la justice, on pense justice, on pense qu'il est juste de rendre un culte à Dieu. Donc la notion de justice est bien plus grande. Et Madeleine s'est jamais laissée piéger dans ce raccourcissement. Elle, pourtant, qui était assistante sociale, elle ne s'est jamais laissée prendre par le rétrécissement du combat pour la justice à un combat pour une justice distributive, matérielle.
Qu'est-ce qu'elle vient faire à Rome? Il y a eu quelque chose, il y a eu un élément, il y a eu un événement qui fait qu'elle est venue 24 heures à Rome, ou bien est-elle venue demander des choses particulières?
Oui, elle écrit qu'elle est venue demander que la grâce d'apostolat qui a été donnée à la France ne soit pas perdue par nous, mais que nous la maintenions dans l'unité.
Alors, une grâce d'apostolat.
Je trouve que c'est extraordinaire, ce mouvement des prêtres ouvriers. C'est quand même une générosité fabuleuse. Enfin, d'aller, les jeunes hommes qui ainsi donnent leur vie pour aller auprès des plus pauvres, c'est une grâce extraordinaire. De sortir de leur milieu, qui était souvent un milieu de classe moyenne de province, où l'Église est forte, où l'Église est très présente. Et en même temps, elle dit qu'elle est consciente, au fond, que ceux qui s'engagent dans cette aventure ignorent trop la nature de la foi. Elle est inquiète à cause de ça, je crois. La nature surnaturelle de la foi. Donc, comme je disais tout à l'heure, enfin, la foi est trop comprise comme si la foi en Jésus-Christ se confond avec la religion naturelle, se confondrait avec la religion naturelle. Et ça, non. Elle est consciente que toutes ces forces vives s'engagent en étant très très mal préparées. Et en plus, elle voit que des gros nuages s'amoncellent parce qu'il y a des gens qui les dénoncent à Rome. On parle de plus en plus d'arrêter cette expérience des prêtres ouvriers, ce qui va se faire à l'automne 1953. Donc finalement, un an et demi après ce voyage à Rome, effectivement, l'expérience s'arrête. Ne reprendra que plus tard, une dizaine d'années plus tard, dans l'Église de France. Donc elle a cette grande inquiétude pour cette grâce d'apostolat. Dieu a donné à l'Église de France la grâce d'une audace missionnaire, d'un élan vers ceux qui ne connaissent pas Dieu, d'une générosité extraordinaire. C'est une grâce, mais ça peut se perdre.
Elle demande que cette grâce soit reconnue et fortifiée par l'Église, que nous la maintenions dans l'unité.
Oui, elle voit bien qu'un certain nombre de ces forces généreuses aussi ont tendance à se... Comme ils ont l'impression de ne pas être compris par les autres, on se marginalise, puisqu'on est aux frontières, puisqu'on va au-delà des frontières de l'Église. Et elle veut aller prier au cœur de l'Église. Et pour elle, prier au cœur de l'Église, c'est prier à Saint-Pierre. Elle vient à Saint-Pierre. alors qu'elle est fatiguée, que ça coûte très cher quand même un voyage comme ça. Alors pour la petite histoire, il y a une Fioretti. La décision ne se prend pas trop parce que les compagnes sont réticentes pour être les raisons financières et puis parce que Madeleine est fatiguée et puis parce qu'elles ne comprennent pas pourquoi Madeleine veut faire ça. Et une amie dépose un billet de loterie sur la pierre de cheminée de la maison. Et ce billet de loterie est gagnant de la somme qu'il faut pour payer le train. Elle raconte que là-bas, elle a prié à cœur perdu et à perdre cœur, et qu'à la fin de la journée, elle savait plus très bien ce qu'elle était venue faire. Elle s'est dit,
À perdre cœur.
Alors, imaginez une journée de prière dans cette immense basilique. Donc elle a dû prier à la fois dans ce cœur d'église, avec cette pensée de ce mystère d'une vocation. Il y a une grâce d'apostolat qui est donnée à quelqu'un, qui est donnée à une église. Qui dit grâce, dit quelque chose qu'on reçoit et qu'on découvre. Et à la fin de la journée, elle ne sait plus, parce qu'elle est allée loin dans le mystère de Dieu.